C'était intéressant ce que disait José, c'est que on est à la recherche du bonheur. S'il y a des gens qui peuvent nous faire rire, c'est très intéressant. Et on aime ça. C'est pas un péché que d'aimer être dans le bonheur. Alors, c'est bien. Moi, je suis toujours en quête de bonheur. Je pense qu'on est tous à la recherche du bonheur. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons trouvé le bonheur. Mais j'ai quand même une question qui est toute intime et personnelle pour chacun d'entre vous. Vous vous répondez à vous-même, hein, mais je vous donne la question. Quelles circonstances, comment en êtes-vous arrivé à être chrétien, pour ceux qui le sont? Est-ce que c'est par une circonstance de bonheur ou par une circonstance de malheur? Si je me permettais de demander, de lever la main à chacun pour dire c'est le bonheur, alors il y aurait, à mon avis, peu de personnes, à mon avis. Et si je disais c'est une circonstance de malheur qui vous a amené près de Dieu, je pense qu'il y aurait pas mal de doigts et de mains qui se lèveraient. En tout cas, pour moi, ce serait la même chose aussi, hein. Je crois que ce serait de ce côté-là. Et donc, je vais vous dire quel est le titre que je donnerais volontiers à cette méditation que je vais vous proposer. Le titre, c'est « Tu me mets trop la pression ». Et je vais vous donner des... vous en avez hein, certainement dans votre tête des exemples dans la Bible où les gens, ils ont la pression. Le premier que j'ai choisi, c'est Gédéon. Gédéon, quand vous réfléchissez bien, il parle à Dieu. Même avant que Dieu ne s'intéresse à lui, il parle déjà à Dieu. Il lui dit, tu me mets trop la pression. Et c'est quoi sa pression? On va décrire un peu la pression de Gédéon. Dans Juges, chapitre 6, versets 1 à 10, vous avez une super pression. Une cocotte minute. Ça s'appelle Gédéon. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils faisaient comme les Corses. Vous savez, les Corses, ils sont tous avec des villages qui sont... Et c'est pas pour rien. Et pourquoi les chrétiens du temps des persécutions, ils allaient dans les montagnes? Ben, c'était bien pour ça. Et tout le monde allait dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Attendez, ils n'étaient pas idiots, ces gens. Ils n'avaient pas de jumelles, mais ils voyaient bien qu'Israël était en train de semer. Ouais, super. Mais ce n'est pas tout de suite qu'ils venaient. On a l'impression qu'ils venaient tout de suite, mais non. Ils n'étaient quand même pas fous. Au lieu de travailler, ils se tournaient les pouces ou ils se tapaient un carton. Enfin, je ne sais pas si ça existait à l'époque. Mais enfin, Amalek, Madian et tout le monde ne se préoccupaient pas trop de la nourriture future. Ils attendaient que l'ennemi d'à côté, Israël, sème. Super, ils ont semé. Et puis, bon, le blé tombe en herbe, et de l'herbe vient en épi, et l'épi est encore vert, et ensuite il devient bien jaune, et la moisson va arriver, super, on va pouvoir faire une incursion dans le pays d'Israël. Et voilà comment ça se passait. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, très malheureux. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, verset 7. Parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Et il leur dit, ainsi par l'Éternel, Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, les dieux des Amoriens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alors, à cause de ça, évidemment, tous ceux qui étaient cultivateurs, ils étaient stressés. Ils avaient la pression. Ils étaient obligés de quoi faire. de se cacher pour pouvoir jeter le grain en l'air. Et puis le vent arrivait. Alors, il ne fallait pas que de loin, on puisse voir qu'ils étaient en train de faire la moisson. Parce que de toute manière, si on le savait, ça y est, la moisson allait partir chez l'ennemi. Donc il y en a un, il avait trouvé une bonne idée. C'était un petit jeune. Et puis il s'est dit, je vais aller au pressoir à huile. Vous savez que le pressoir à huile, en général, c'est un endroit couvert. Et puis on fait tourner les olives autour d'un rouleau. Hein, et puis ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, pour arriver à faire le grain et à l'engranger, on n'est vraiment pas dans la bonne méthode, quoi. Et le gars, il était stressé, quoi. Il en avait marre. Il avait la pression. Et on se rend compte, après, qu'il y pensait déjà pas mal, bien avant que l'histoire ne nous le dise. Il nous a dit au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel. » Mais Gédéon ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel, verset 11 du chapitre 6. « Et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Donc au pressoir, si vous voulez, c'était vraiment la pression. Hein. Ce n'était pas la pression de l'olive, c'était la pression. Et c'était le pressoir à olive. À mon avis, c'était comme Gethsémané, le pressoir de Gethsémané. Ici, c'était déjà le pressoir. Hein. Pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon, il dit, « Mais il se moque de moi, ce gars. Il se moque de moi, vaillant héros. Mais tu vois pas dans quelle histoire on se trouve. On est obligé de faire le travail du grain au pressoir à olive. Et puis, j'en peux plus. J'en peux plus. » Et c'est ce qu'il dit. Il dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont dit et qui nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as. » C'est-à-dire avec pas grand-chose. « Vas-y, mais pas avec ta superbe force de costaud, non, avec ta force de Gédéon tout faible. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Non, ça va pas. Non mais écoute, tu dis... Mais tu dis des bêtises. » Il le dit plus respectueusement, si vous voulez, que moi. Je me permets de le faire, mais mettons-nous dans l'ambiance. Mais enfin, mais tu n'as pas une vision correcte de ce qui se passe, toi, l'homme qui est là. Tu vois pas ce qui se passe, mais enfin, c'est fini. L'histoire d'Israël est en train de se terminer. C'est fini. Madian, ce sont des parasites, ils viennent, ils attendent que le blé soit bien fait. Que les fruits soient là, les brebis, les bœufs soient bien gros, et ils viennent tout prendre. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux de moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, parce que je te crois pas. Hein, en gros, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, vas-y, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Il veut un signe. Et vraiment, il est dans la détresse. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi Dieu ne veut pas nous donner un gros cadeau de bonheur en se disant, je te donne un cadeau de bonheur? Et je compte sur toi pour que tu te tournes vers moi parce que je t'ai fait ce cadeau. Pourquoi Dieu ne fait pas comme ça? Vous avez la réponse. Hein. Vous savez très bien comment est la nature humaine. Quand on a un beau cadeau, quand on a quelque chose de bien, on oublie Dieu. On est bien dans son cadeau et on oublie l'auteur du cadeau. Au 19e siècle, il y avait un monsieur qui était très riche. Et il avait un enfant qu'il aimait beaucoup. Et cet enfant lui réclamait de l'argent, l'argent de poche. Enfin, de l'argent de poche, de l'argent pour vivre. C'était pas seulement de l'argent de poche, c'était l'argent pour vivre. Et il dit, papa, écoute, papa, je suis obligé de venir tous les jours pour te demander de l'argent. Est-ce que tu pourrais pas me donner une somme pour le mois Comme ça, je ne viendrai pas t'embêter. Et vous comprenez pourquoi le papa refuse. Il dit, oui, mon enfant, mais si je te donne l'argent pour le mois, je ne te verrai que qu'une fois par mois. Alors que si je te le donne tous les jours, je te vois une fois par jour. Il était bien conscient que son fils ne l'aimait pas comme lui aimait son fils. C'est un peu ça pour moi avec Dieu. Et c'est un peu ça le stress, la pression qu'il nous met. C'est pas qu'il le désire, mais il nous connaît. On a beau être chrétien, on a besoin de Dieu. Et c'est souvent, hélas, dans la détresse que ça se forge, que ça se construit. Alors on a de la chance parce que Gédéon, enfin c'est pas on a de la chance, c'est Gédéon a de la chance. Gédéon était dans la pression et Dieu a répondu un peu à sa pression. Pardon, excusez-moi, je fais beaucoup de pression dans le micro. Et Dieu va lui répondre, mais il lui met quand même une autre pression. Il a sa pression liée à la situation agricole et politique d'Israël et ça le mine dans sa propre vie. Cet enfant, ce jeune homme. Et Dieu lui dit, je t'en mets une louche supplémentaire. Tu vois le poteau d'Achéra, là, qui est dans la maison de ton père, là. Ben, tu vas aller le casser. Alors, voilà qu'il a la pression, et voilà que Dieu lui en remet une louche dessus. Et parfois, c'est ce que nous avons dans notre vie, la constatation que je fais pour ma vie ou pour ta vie, c'est que j'ai la pression et Dieu en remet une louche. Alors que justement, ce serait quand même plus logique dans ma tête que Dieu n'en remette pas une louche puisque je suis déjà au bout du rouleau. Eh bien non, Dieu ne fait pas ça. Alors, on a tendance à penser que Dieu est malveillant. Et dans la situation de Gédéon, il a la foi en Dieu. Enfin, il s'est aperçu après, bien sûr, quand l'ange de l'Éternel monte dans l'autel qu'il vient d'installer et sur lequel il a mis l'animal sacrifié, il s'aperçoit qu'il était en face de Dieu lui-même. Et là, c'est quand même quelque chose qui le saisit. Et il va donc avoir la force de faire quelque chose qui va l'amener encore un peu plus de pression. Oui, il va le faire la nuit, parce qu'il est quand même pas fou, et il connaît les gens du coin, et il se dit, mais je vais me faire tuer, moi. Hein? Donc il le fait la nuit, mais il le fait quand même. Il le fait quand même, parce qu'il a compris que Dieu était là, et que Dieu lui demandait ça, même si c'est la pression qui augmente encore. Il le fait la nuit, vous savez ce qui se passe ensuite, bien sûr. Il avait 10 serviteurs avec lui, hein? Donc il dit qu'il est le plus petit dans la maison de son père, et que sa maison est pauvre, mais ils avaient quand même des serviteurs. Donc vous voyez, c'était quand même... Bon, des gens qui avaient des moyens quand même, mais pauvres. Voilà. Dieu a répondu à la pression de Gédéon. On a de la chance. Gédéon a eu de la chance, parce qu'il y en a d'autres. Ils ont eu la pression, ils n'ont jamais eu de réponse. On va prendre des autres exemples. Hein. Samuel, dans 1 Samuel 15, 34... Dans 1 Samuel 15, 34, on voit l'histoire de... Enfin, on ne voit pas l'histoire de Samuel. Samuel est déjà un homme mature. Samuel, il pleure. Dans 1 Samuel 15, 34. Samuel partit pour Rama, pour Bethléem, si vous voulez. Hein? Samuel partit pour Bethléem... Et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi sur Israël. Mettez-vous dans la place de Samuel. Essayons. Samuel, c'est le prophète de l'Éternel qui, après la période des juges, redémarre le prestige spirituel du peuple de Dieu. Samuel, c'est le dernier juge, et peut-être le premier prophète, enfin non, c'est pas le premier prophète, mais c'est en tout cas le dernier juge qui donne vraiment une puissance, une poussée spirituelle très forte dans le peuple d'Israël qui était vraiment à la masse, hein, qui était vraiment immoral à un point que, hein, vous lisez les juges, vous avez la situation. Hein. Ah, c'est quand même merveilleux. Et puis en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va chercher un homme humble qui se cache derrière les bagages et qui a une tête de plus que tout le monde et qui est beau, qui est le roi d'Israël. Et ce roi d'Israël, c'est parti, on va y arriver. Maintenant, on va être dans le réveil spirituel, c'est merveilleux. Puis Samuel est là-dedans. Puis c'est logique, il s'est accroché affectivement à Saül. Pour lui, Saül, c'est le roi, et lui, le prophète, et il est content. Et vous voyez ce qui se passe à ce verset 34, c'est que ça n'a pas marché. Ce n'est pas de la faute de Samuel. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est la faute de Saül. Saül, à un moment donné, est devenu pervers. Pervers, égoïste, centré sur lui, désobéissant, n'ayant pas de fibre spirituelle, parce qu'il pense à lui et à son prestige. Il pense à rien d'autre. Samuel, il est désespéré, il est sous la pression. Samuel dit, tu me mets trop la pression. À Dieu. Il pleure. Et vous savez ce qui se passe ? Dieu lui donne une réponse. Et là, merveilleusement, cette réponse est positive également. Il donne une réponse, il dit, ben écoute, vous voyez marqué au chapitre 16, verset 1, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. » C'est dur, pas loin de Rama. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ouais, Samuel, il dit, mais attends Dieu, tu sais très bien comment il est, Saül. Il est d'une perversité terrible. Il va tout deviner, parce qu'il est intelligent, cet homme. En général, les pervers sont intelligents. Parce qu'ils manigancent, et ils arrivent à tout voir avant même que vous ayez vu. Et c'est comme ça qu'ils vous pilotent, d'ailleurs, parce que comme ils sont pervers, ils vous manipulent sans que vous vous aperceviez que vous avez été manipulé. Et Saül, c'est ça. Il dit, alors Samuel dit à Dieu, mais enfin, écoute, il n'y a rien à faire contre Saül. On ne peut plus rien faire. Tout le système est fait et verrouillé. Il n'y a personne qui pourra y aller contre. Et Dieu lui dit, non, tu fais un sacrifice. Tu y vas pour un sacrifice. Mais tu n'es pas obligé de lui dire que tu y vas aussi pour autre chose. Je te le demande. Dieu ne répond pas forcément à un pervers. Enfin, il nous a dit que Dieu agit avec le pervers selon sa perversité. On ne va pas reprocher à Dieu de ne pas dire toutes ses intentions envers Saül. Parce que Dieu, il peut dominer quand même les pervers. Hein? Et c'est ce qui se passe. Et donc, Saül a eu sa réponse. Si Dieu lui a mis la pression, enfin, c'est pas Dieu qui lui a mis la pression, c'est les circonstances, mais il s'est trouvé dans une situation de pression terrible. De pression dans son moral, parce qu'il était vraiment à plat, ce pauvre Samuel. Lui qui avait l'espérance, qui voyait l'espérance d'Israël en Saül, et tout d'un coup, c'était fini, quoi. Hein? Tu me mets trop l'impression, Seigneur. Et Dieu lui répond, et lui donne un exaucement. Et il verra David monter sur le trône. Deuxième exemple. Troisième exemple, j'aurais peut-être pu le mettre avant le deuxième, puisqu'il précède. Elkana, c'est le père de Samuel. Et vous savez ce qui se passe pour Elkana. Ce n'est pas lui qui a la pression, c'est sa femme. Et il nous a dit dans 1 Samuel 1, 6 à 10, sa rivale, oui, parce qu'il y avait, vous connaissez, il y avait une mère porteuse, et il y avait la mère. La mère n'était pas mère puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Elle aurait voulu être mère et aujourd'hui c'est peut-être moins fort pour les femmes, mais ça l'est encore. C'est parfois difficile pour une femme capable d'avoir des enfants de ne pas en avoir, enfin, d'être stérile, de ne pas avoir la possibilité d'avoir cette fierté de donner la vie. D'avoir cette dignité, ce statut complet de la femme qui consiste à avoir un enfant. On peut comprendre ceux qui n'ont pas la possibilité et souffrir avec eux de cette situation. Mais dans l'époque de Samuel, c'est pire que ça. La stérilité, c'est le péché. C'est parce qu'il y a une punition, parce que, enfin, et puis c'est vraiment l'opprobre. L'identité de la femme n'est pas totalement faite quand on n'est pas mère. Et c'est le cas d'Anne qui, aimée par son mari, hein, on le sait, elle est aimée par son mari, et heureusement, c'est ça qui la tient, reçoit forcément les mortifications de celle qui est la mère porteuse. Hein. Verset 6. Sa rivale lui porte prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. L'idée, c'était que même c'était Dieu qui avait voulu ça. Et toutes les années, ça c'était comme ça, à chaque fois qu'ils montaient de Silo, qu'ils montaient vers Silo, au tabernacle, eux qui étaient lévites, et ils le faisaient, eh bien, elle pleurait. Elle pleurait, elle était au bout du rouleau. Elle disait à Dieu, j'ai trop la pression. J'ai trop de pression, c'est pas possible, je ne peux pas. Et il faut que je monte quand même, parce que si je monte pas, ça va pas. Vous connaissez l'histoire du psaume 73, je vous en avais parlé. Ce chantre qui est devant tout le monde et qui, gloire à Dieu, etc. Puis au fond de son cœur, il n'en peut plus. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Anne est obligée de sortir. Et puis, il y a Pénina qui est là avec toute sa tribu derrière. Et puis, juste à côté, il y en a une qui est toute seule, qui est peut-être avec Elkana, mais qui est toute seule. Voilà. Alors, elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Elle était dans la dépression. Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il n'a pas compris, quoi. Hein. Comme tous les hommes que nous sommes, en général, on ne comprend pas beaucoup les dames quand elles sont dans leur souffrance. Et là, c'est bien le cas. Enfin, bien sûr que Elkana, il aime sa femme, mais qu'il l'aime comme si c'était 10 fils, n'est-ce pas? Et il dit, ben, tu m'aimes et moi, je t'aime. Ça suffit. Voilà. Et vous savez que Anne a eu aussi sa réponse, une réponse de Dieu. Ils ont de la chance, ces trois-là. Ils ont eu des réponses de Dieu. Il y en a un autre qui n'a pas eu de réponse. C'est Ésaïe. Ésaïe 63. Prenez Ésaïe dans la période des mauvais rois, à la fin d'Israël. Ésaïe, qui a eu des visions de Dieu, il est dans la détresse aussi. Hein. Au verset 19 du chapitre 63, il est dit « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est pas appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » Ça, c'est dans le passé. Hein. Jamais on a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses. Pour ceux qui se confient en lui, on a vu des trucs dans le passé qui sont merveilleux de ta part. Dans le passé. Sous-entendu, mais maintenant, il n'y a plus rien. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et qu'ils se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est Isaïe qui dit ça, c'est pas un pécheur, un vertébré, hein, un vétéré. Hein, c'est Isaïe. Nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque son nom, ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, tu nous as caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert, Jérusalem, une solitude. Notre maison sainte et glorieuse où nos pères célébraient tes louanges, elle est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est dévasté. Après ça, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et tu nous affligeras à l'excès? Vous sentez le type, il a trop la pression. Il va finir ses jours en Égypte, scié dans un tronc d'arbre. La tradition le dit, c'est pas la Bible. Il n'aura pas vu le réveil, lui. Il restera dans la pression. Mais vous savez que dans d'autres textes d'Ésaïe, Ésaïe réussit à aller plus loin que la pression dans laquelle il se trouve jusqu'à sa mort. Lui, il n'y a pas eu de réponse. Pas eu de réponse. Jusqu'à sa mort. Peut-être que maintenant, il est comme Lazare dans le sein d'Abraham et qu'il sait vers qui il va. Mais il n'a pas vu du temps de sa vie sur terre. Et puis, je vous en donnais un autre aussi, qui s'appelle Élie. Élie, il avait aussi la pression. Vous savez que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Alors, quand l'épître de Jacques nous dit que Élie avait la même nature que nous, on se dit, ben, on va prier pour qu'il y ait du soleil tout le temps à Hasbrouck, et puis qu'on ait toujours le succès dans nos entreprises. Hein, oui, bon. Élie était de la même nature que nous, et on le voit dans 1 Rois 19, versets 4 à 7. Et on voit que là, il dit, je veux mourir, j'en ai marre, je peux plus. Franchement, je peux plus. Je peux plus te suivre, Seigneur, parce que c'est trop. 1 Rois 19, versets 4 à 7. Alors, vous savez ce qui s'est passé. Enfin, certains d'entre vous savent ce qui s'est passé. Élie, pendant 3 ans, il a prié d'abord pour qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau en Israël. Donc, résultat, chimiquement, l'agriculture, tout ça, c'est fichu, tout brûle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de nourriture, c'est la famine. Il y a des gens même qui mangent leurs enfants. Hein. Akab, à un moment donné, il se retrouve avec une femme qui vient et qui réclame après la viande qu'elle n'a pas eue, parce que le petit enfant, qu'ils ont mangé hier, sa copine et elle, c'était l'enfant mort, bien sûr, hein, et ils l'ont mangé. Hein, et puis maintenant, moi, le mien, il est mort aussi, mais je veux pas. Enfin, non. Le mien, je l'ai donné hier, et puis celui d'aujourd'hui, c'est qui a mangé, c'est le sien, mais elle veut pas qu'on le mange. Hein, vous voyez l'ambiance, quoi. Hein. Donc, Élie se trouve dans cette situation. Il a été protégé par Dieu. Il s'est retrouvé dans la montagne avec des corbeaux, etc. Puis après, chez une veuve, alors qu'il est à peine à côté de Sidon, qui est le centre du monde anti-dieu, hein, puisque le père de Jézabel habite Sidon, hein, c'est le roi de Sidon, et Jézabel c'est la femme d'Akab. Donc vous voyez, avec le téléphone arabe en général, on sait à peu près où sont les gens. Hein. Et puis voilà que Dieu demande à Élie d'aller s'installer à Sarepta, qui est juste à côté de Sidon. Vous voyez, Élie, il a la foi. Il se dit, mais c'est fou, je ne vais quand même pas aller dans la gueule du loup, là. C'est juste à côté de Sidon. Non, 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 Dieu lui dit d'aller chez une veuve et il va rester là. Il a la foi. C'est un homme solide. Il va faire des miracles, même, pour cette dame. Et puis, à un moment donné, Dieu lui demande d'aller voir Akab, c'est le moment. Peut-être qu'avec toute la pression que Dieu a mis sur le peuple d'Israël et sur Akab, peut-être que ça va marcher. Et ça marche. Parce que quand il arrive, les 450 prophètes de Baal gesticulent, se font des incisions partout, et ils attendent que le feu du ciel ou quelque chose se passe, n'est-ce pas, pour que leur sacrifice fonctionne. Et vous savez que ça ne fonctionne pas. Et puis il y a un pauvre gars là, Élie, qui est tout seul, et puis il met de l'eau sur le truc pour montrer qu'il ne fait pas de simagrée, hein, il ne fait pas de prestidigitation, comme souvent on le fait dans les cultes et les cultes occultes. Et bien là, le feu du ciel tombe. Et tout le monde dit, mais là, c'est celui-là le Dieu. Ça, c'est vraiment le Dieu d'Israël. Et donc, Akab en arrive jusqu'à exterminer au torrent de, je ne sais plus, un torrent, là, d'exterminer 450 personnes. Plouk, hein. C'est lui-même qui les tue. Et il s'en va. il s'en va vers Jérusalem, ou, enfin, ou à Samarie, enfin, bref, il s'en va pour revenir comme prophète de l'Éternel, et Jézabel lui dit, ce que tu as fait à ces 450 personnes, moi, je te jure, je vais te le faire aussi. Et là, il tombe du grenier à la cave, lui qui pensait que Dieu allait le tenir pendant sa vie de prophète maintenant, tout d'un coup, une réalité s'impose à lui, Dieu ne va pas le protéger. Et il tombe du grenier à la cave, il dit, mais comment ça se fait que Dieu me lâche, quoi? Alors il s'en va au désert. Il s'en va au désert et c'est ce qui se passe au désert. Il est tellement à la masse, il est tellement avec la pression de ce qui se passe qu'il n'en peut plus. Il a couru, il n'en peut plus. Il s'arrête. Il tombe de sommeil tellement il ne va pas bien. Et puis, il y en a un qui le réveille. Il y a un homme qui est à côté de lui qui lui donne à manger. Et puis, il mange, il boit. Et puis, pouf, il retombe dans le sommeil. Et puis, il se réveille encore à nouveau parce qu'il y en a encore un qui vient le taper, et puis qui vient le réveiller, et il lui dit, la route est longue, vas-y, mange, parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être renouvelé physiologiquement, physiquement, parce que tu n'en peux plus. Et Élie, vraiment au bout du rouleau, dans la déprime la plus complète, peut à ce moment-là aller jusqu'au mont de l'Éternel et expliquer son cas devant Dieu, d'homme à homme, si on veut, hein, pratiquement. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Tu me mets trop la pression. Et vous savez ce qu'il dit, Élie. Il dit, je ne vaux pas mieux que les autres. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Hein, c'est ce qu'il dit. Donc, du verset 4 au verset 7, on le voit, il dit, pour lui, hein, Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha et il s'endormit. C'était vraiment l'extrémité, il n'en pouvait plus. Hein? L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. On pourrait méditer sur le chemin est trop long pour toi. Il se leva, il mangea, il but, et après la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bon. Là, Dieu répond à Élie. Parce que il lui dira à un moment donné, écoute, je te remplace. Élie, c'est bien, tu as fait ton temps. Maintenant, je vais te remplacer. Tu veux aller désigner un tel comme roi sur la Syrie, un tel sur le roi d'Israël, et puis je vais mettre un autre prophète que toi à la place. Lui, il a eu de la chance. Avant de finir sa vie, et il l'a fini de manière glorieuse, il a eu une réponse. Il y a encore un qui a eu de la chance. Job, et je vais aller assez rapidement sur Job, parce que sinon, hein, on en a pour 3 jours. Hein. Job, dans le chapitre 7, versets 13 à 21, vous connaissez l'histoire de Job. Et là vraiment, on a vraiment, dans toute cette histoire, je pourrais vous résumer ça en disant, tu me mets trop la pression. Vraiment, pour Job, ça a été ça. Encore plus que pour d'autres. Tu me mets trop la pression. Job 7, versets 13 à 21. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes et que tu m'épouvantes par des visions. Il n'arrive pas à dormir. Il voudrait dormir, il ne peut pas. Je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces os. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Mais si j'ai péché, qu'est-ce que j'ai pu te faire, gardien des hommes, pour me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Et que ne pardonnes-tu mon péché et que tu n'oublies mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière et tu me chercheras et je serai plus là. C'est contemporain, hein, ce genre de discours, vous ne trouvez pas? C'est nous, ça. C'est la pression qu'il y a sur nous. Et Dieu nous fait ça. Et on ne comprend pas. Et on dit, mais Dieu, mais pourquoi tu fais ce genre de choses? À la limite, allez, laisse-moi mourir, quoi. Tu veux même pas que je meure, tu te rends compte? Mais tu es vraiment un tortionnaire. Enfin, il ne dit pas ça, hein. Il ne dit pas qu'il est un tortionnaire, Dieu, mais il ne comprend pas. Et nous, c'est la même chose. Parfois, on ne comprend plus. Et Dieu nous met dans une situation où on ne comprend pas. On dirait qu'il fait exprès. Enfin, c'est pas qu'on dirait, c'est sûr. On ne comprend pas. Alors là, il a eu une réponse. Il a eu une réponse, mais sa réponse, elle est partielle. La réponse que Dieu lui a donnée, c'est, vous la connaissez très très bien, c'est, bon, je vais la prendre, hein, c'est dans Job 42, verset 2. C'est la fin du discours de Job, la réponse qu'il fait lorsque Dieu lui a expliqué l'inexplicable. Je reconnais que tu peux tout, dit Job, verset 2. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est-à-dire qu'il a eu une réponse qui n'est pas trop une réponse, mais on sent que Job a compris qu'il n'a pas compris. Il a compris qu'il n'a pas compris et qu'il ne peut pas comprendre. Bon, on dirait comme réponse, il y a mieux quand même. Hein. Mais il a eu une réponse. Dieu essaie de lui faire comprendre que la dimension du problème dépasse l'humain. Et que Dieu nous place, nous, en tant qu'humains, dans une situation inhumaine. Parce que les situations que nous rencontrons sont inhumaines, insupportables, et pourtant il va nous les faire supporter. Réponse. C'est pas une réponse de Normand, c'est une réponse de Dieu. Mais Job a compris que c'est que plus tard, après sa mort, qu'il comprendra. Et il y en a qui ont compris ça. Certains n'ont peut-être pas compris. Gédéon, est-ce qu'il a compris? Je ne sais pas. Samuel a-t-il compris? Oui. Mais Job a compris. Job a compris que c'est plus tard. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Jérémie, c'est un enfant. Et quand Dieu l'appelle, il l'appelle, lui dit, tu seras prophète de l'Éternel. Super. Moi, si on m'avait dit quand j'étais enfant que je serais prophète de l'Éternel, oh, je crois que j'aurais mis mes chevilles qui gonflent un petit peu. Mais peut-être que Dieu m'aurait humilié de telle manière que j'aurais pu rester prophète de l'Éternel. En tout cas, Jérémie, c'était un prophète de l'Éternel. Quand il était enfant, il était déjà destiné à être prophète. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations, pas seulement d'Israël. Excusez-moi du peu. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que tu es un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'entendais bien. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Un peu comme ce qui nous est dit pour nous chrétiens, après toutes ces périodes où il nous est dit qu'il ne faudra pas nous inquiéter lorsque nous serons devant des personnalités ou des gens ou une réunion, que Dieu mettra en nous, par son Saint-Esprit, les possibilités de répondre. Et ici, c'était bien écrit explicitement pour Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Avant de pouvoir construire, il faut détruire deux fois. Mais ça va marcher, Jérémie. Ça va marcher. Et Jérémie est parti. Je pense qu'il a dû avoir un peu d'énergie parce que le Seigneur l'a encouragé. Ouais, mais vous connaissez la suite. Il y a le livre de Jérémie, mais il y a même aussi le livre des Lamentations de Jérémie. Et les Lamentations de Jérémie, c'est quoi? C'est « Tu me mets trop la pression ». Voilà. Jérémie, Dieu lui promet qu'il va toujours s'occuper de lui. Et puis Dieu l'abandonne. Dieu l'abandonne. Chapitre 3, verset 1 à 20. Je crois que je me suis trompé, c'est pas Jérémie, ça doit être Lamentation de Jérémie. Jérémie, c'est Lamentation de Jérémie. Oui, c'est ça, excusez-moi. C'est Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 20. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur, la fureur de Dieu. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Sous-entendu, entre parenthèses, pourtant il me l'avait dit, que je serais dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Tout le jour, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Vous savez que quand on est déprimé, on finit par être maigre. Je suis maigre, mais je ne suis pas déprimé. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il a réussi à faire un truc, Dieu, mettre des barrières pour que je ne puisse pas m'en sortir, que je sois dans la pression comme une cocotte avec lui qui prend le tournivet et qui a fermé la cocotte. Et ça, et à l'intérieur, ça y va bien. J'ai beau crier et implorer du secours, verset 8, il ne laisse pas accès à ma prière. C'est Jérémie qui parle de Dieu. Hein. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché, il a détourné mes voies, il a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un sujet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. J'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il a eu des promesses. Et ces promesses n'ont pas été tenus par Dieu. Vous imaginez un prophète, missionné, mandaté par Dieu, et puis voilà ce qui lui arrive. Il y a de quoi avoir l'impression, hein? Dieu l'abandonne. Comment c'est-il? Comment se fait-il que Dieu puisse faire ça? Et on sait que Jérémie, lui aussi, va partir en Égypte. Et là-bas, c'est pas scié qui va être, c'est lapidé. Chacun son truc, hein. Voilà. Ces gens n'ont pas vu la réponse à leur vie. Paul, dans 2 Timothée 4, versets 6 à 18, il raconte la fin de sa vie. Il est à Rome, il va passer devant Néron, ou un autre, je crois que c'est Néron, oui. Certains disent qu'il part en Espagne après. Enfin bref, toujours est-il que ce qu'il dit en gros, c'est « J'ai la pression, tout le monde m'a abandonné. Je me suis retrouvé devant les autorités et les chrétiens sont défilés. Ils sont plus là, je suis tout seul. » L'apôtre Paul, qui a lancé pas mal d'assemblées, se retrouve seul à la fin de sa vie. Comme certains responsables dans certaines situations d'aujourd'hui ou d'hier se sont retrouvés seuls à la fin de leur vie. Ils ont trop la pression. Et on a l'impression que c'est un échec. Dans toute cette situation, on a l'impression que c'est un échec. Et mes frères et sœurs, vous pouvez parfois en être là, croire que votre vie est un échec, parce que ce que vous avez espéré, ce que Dieu vous a promis, ou ce que vous avez cru que Dieu vous avait promis, ne s'est pas réalisé. Ou... Enfin, voilà. Sur ce, je vais vous proposer de lire dans Hébreux au chapitre 11, verset 13. Une lumière un peu sur la réponse à donner, hein, que vous connaissez, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Hébreux 11, 13. Ils sont restés dans la foi jusqu'à leur mort, et en ne considérant pas leur mort comme étant la fin du problème. C'est ce qu'il est dit ici. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, d'accord, mais moi, je préfère être étranger et voyageur sur la terre, mais avoir une belle Rolls Royce, vivre dans le luxe complet et être chrétien. C'est quand même mieux, quoi. Mais là, c'est pire encore. C'est qu'ils sont étrangers et voyageurs, mais ce qui n'est pas dit non plus, c'est qu'ils sont aussi en train de souffrir sur la terre. Alors, c'est dur. Il y a trop de pression. Versets 37 à 40 du même chapitre, il nous est dit « Ils furent lapidés, Jérémie, sciés, Esaïe, torturés, oh là vous mettez qui vous voulez, hein ? Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Verset 38 « Eux dont le monde n'était pas digne. » C'est le monde qui n'est pas digne d'eux. Alors que eux sont vraiment les raclures du monde. Vus comme ça, hein ? Vous voyez, ils sont considérés comme les raclures du monde, alors que ça devrait être l'inverse. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et on pense aux Cévenoles, aux gens dans les montagnes, dans les Alpes. On pense à tout ce qui est la Hongrie avec Jean Hus. On pense à plein de choses, à, je sais pas, l'île d'Iona du côté de l'Écosse, partout, il y a de ces témoignages de ce genre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. On a quand même quelques réponses de Dieu. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas eu leur réponse, ils sont morts. Peut-être que maintenant, dans le sein d'Abraham, ils savent un peu. Mais nous savons aussi qu'il fallait qu'ils attendent un peu, parce qu'avec eux, il y avait nous. Et comme nous, on est plus loin, il faut qu'ils attendent. Donc il y en a qui sont partis sans savoir vraiment la réponse, mais ils l'auront un jour, c'est sûr. Voilà. Alors, dans Hébreux, chapitre 12, verset 3, 12, verset 3, il nous a dit, considérez, réfléchissez, restez pas sur votre idée que vous êtes dans la mouise, que vous êtes dans la pression et que c'est fini. Regardez ce verset 3, considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il nous fait la comparaison, l'auteur des Hébreux, entre Jésus, qui, comme un caillou, il a mis son front comme un caillou, et il a réussi à résister contre tous, même contre ses disciples qui l'ont abandonné. Il était tout seul, tout seul. Il s'est dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors, moi, en tant que bon chrétien, je vais dire, ouais, Seigneur, tu me demandes, je vais devoir considérer, je vais essayer de faire un effort pour essayer de me mettre dans cette situation. Non, Dieu veut pas qu'on fasse des efforts du genre pharisien, oui, du genre c'est la loi qui revient dans l'Église. Non, c'est considérer, le prendre, non pas au niveau de nos référentiels internes, dire voilà, c'est la codification du comportement que je dois avoir en tant que chrétien. Non, c'est ma personnalité d'adulte qui juge des choses et qui fait la part des choses, qui ne dit pas je dois faire, mais je dis non. Allez, je me pose, j'essaie de faire baisser la pression en mangeant un petit peu de gâteau de miel et avec une cruche d'eau comme Élie au mont Horeb. Hein, je me mets bien, 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 je commence à considérer la situation et puis là je me dis oui, je considère que celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs de son temps et de moi, des pécheurs de mon temps, afin que je ne me lasse pas avec l'âme qui se décourage. Parce que ce n'est pas fini. Matthieu 26, 36 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Je vous propose de lire dans Matthieu 26, 36 à 46 ce qui nous est dit. Vous savez ce qui se passait au pressoir à huile. Ce n'était pas Gédéon qui était là. Peut-être que Jésus a pensé à Gédéon lorsqu'il était là, puisque c'était le Fils de Dieu. Je ne sais pas, c'est rien. On ne va quand même pas mettre des versets supplémentaires à la Bible, hein, bien sûr. Hein. Matthieu 26, 36 à 46. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Oui ? Je me suis trompé. J'ai dû me tromper. Excusez-moi. J'ai trop la pression, en fait, c'est ça. Pardon ? 26-26 ? Non, mais j'ai Matthieu 26... 36, pardon, 36. Oh là 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 là, pff, pardonnez-moi. J'espère que vous me pardonnez. Là-dessus, ouais, excusez-moi, c'était ça. Hein. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, le pressoir à huile. Moi, je pense que ça a un lien avec Gédéon. Mais peut-être que non. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc, on sent déjà que la pression, elle est là. Hein, hein, on le sent. Hein. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Hein, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. On retrouve le même comportement, la même situation que les autres hein, qui ont vécu jusqu'à la mort, Job, Ésaïe, Jérémie, etc. Hein. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais quand même, moi je ne veux pas te désobéir. Mais trouve quelque chose, parce que tu peux tout trouver, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu as peut-être trouvé un autre système que ça. Le Fils de Dieu qui dit ça à son Père. La pression. La pression de cette pression-là, je ne l'ai jamais eue. Et je crois que personne ne peut prétendre avoir une pression aussi importante que celle que le Fils a eue à ce moment-là. Heureusement qu'il n'a pas flanché, hein, parce qu'on ne sera pas là pour en parler. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il va vers les disciples et les trouve endormis. Bah oui, c'est logique. Ils avaient discuté toute la nuit, vous savez, c'est Jean 17 et tout ça. Hein, tout ce qui a été discuté, ce qu'on n'a même pas dans la Bible. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Ils ont discuté jusqu'à la fin de la nuit. Ce n'était pas encore le jour, mais bientôt. Ils étaient crevés, hein. Ils étaient complètement fatigués, ces disciples. Ils avaient tenu en plus, parce que c'était leur maître qui parlait. Alors, ils étaient concentrés sur ce qu'ils disaient. Et puis, forcément, à un moment donné, le corps, il n'en peut plus. Et pouf, il tombe de sommeil. Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, verset 40, et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, il pria à mon père. C'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Je comprends, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la solution ne va pas être autrement que ce que tu me demandes de faire. Il revint, il les trouve encore endormis. Alors leurs yeux, car leurs yeux étaient appesantis, ils étaient vraiment fatigués. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Trois fois. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, vous vous reposez, voici, l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Soyez dignes de lui, là. Vite, 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 réveillez-vous un peu. Parce que si on vous trouve endormi alors que c'est la lutte, ça va pas le faire, quoi. Donc, levez-vous. » Et c'est ce qui se passe quand Judas arrive, n'est-ce pas, hein ? Élie était de la même nature que nous. Tous ces gens étaient de la même nature que nous. Ce n'étaient pas des héros qu'on l'on doit regarder comme nous, aujourd'hui, on regarde les stars qu'on veut nous présenter. Ce sont des gens de la même nature que nous, et Dieu nous dit que nous sommes de la même nature qu'eux, et que nous sommes dans des circonstances de souffrance qui sont faites de la même manière que cet homme riche du 19e siècle qui faisait venir son fils tous les jours pour avoir de l'argent. Hein ? Il lui donnait son argent. Et je pense qu'il y a de ça un peu. Hein ? Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et ne tombât pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Même nature que nous. J'en ai assez, Seigneur. Je veux mourir. Ça, c'est nous aussi. Il y a les victoires, mais il y a aussi les apparentes défaites. Dans 1 Pierre 1, 6 et 7, il nous est dit, c'est là ce qui fait votre joie. Hein, la révélation de Dieu dans le futur. C'est ça qui fait notre joie. Verset 6. Notre joie, c'est pas maintenant. Notre joie, on l'a, mais ce qui fait notre joie maintenant, c'est toute la perspective que nous avons devant nous. Ce qui nous a été dit dans Hébreux 11. Ils ont salué de loin la situation. Il nous a dit ici, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, hélas, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors on se dit, oui, moi je suis un bon chrétien parce que je souffre. Il y a même en Chine et ailleurs des gens qui cherchent après la souffrance, qui cherchent après la souffrance pour être sûrs d'être bien sanctifiés. Ce n'est pas du tout à fait la démarche de Dieu. Quand tu as envie d'être heureux, tu le cries à Dieu et qu'il te donne la possibilité d'être heureux, prends-le, parce que Dieu te le donne. Dieu te donne un cadeau. Il faut savoir que Dieu va te donner aussi des souffrances, parce que c'est ainsi hein, que pour un peu de temps, par diverses épreuves, multiples et variées, on arrive à la sanctification, à la situation que Dieu désire pour toi, pour moi. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ça ne fait pas pénitence, hein ? La pénitence, c'est quelqu'un qui s'offre lui-même la possibilité de souffrir. Nous, on n'accepte pas de réagir de cette façon. Mais il nous est dit ici hein, que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché quand il est dans cette perspective-là. Christ souffre dans la chair, a souffert dans la chair en vue de ce qu'il allait obtenir, la joie éternelle. Galates, chapitre 5, versets 24 et 25. Et j'en arrêterai là. Galates 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchant aussi selon l'esprit. Alors, il y a un problème. C'est que lorsqu'on a envie de manger une crème glacée, l'été, peut-être pas l'hiver, mais on va se dire, oh là, c'est ma chair qui est en train de parler. Quand j'ai envie d'aller au cinéma, on va dire, mais Seigneur, c'est ma chair qui va parler. Non, c'est pas ça. Hein. On a une façon de voir le problème qui est assez mécanique et un petit peu trop basique. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ne correspond pas à ça. Quand Dieu te donne un bonheur, tu le prends et tu le remercies pour ce bonheur. Quand Dieu te met dans un malheur, réfléchis, parce que certainement qu'il veut t'éduquer, quelque part. Quand il veut m'éduquer, c'est comme ça qu'il a fait, et il y a encore du boulot, et j'espère qu'il ne va pas trop m'éduquer, parce que quelquefois c'est un peu dur, quoi. Hein? Mais vous comprenez, tu me mets trop la pression. On a tout à fait le droit de le dire. Dieu aimerait bien qu'on soit plus vrai avec lui, qu'on lui dise comme Job, tu me mets la pression, Seigneur, je ne comprends pas. Et Dieu fait des réponses, il en fait quand même. Et même s'il n'y a pas de réponse, comme pour Ésaïe, comme pour Jérémie, je trouve que, oui, enfin, quand Ésaïe et Jérémie n'ont pas eu de réponse, ils ont trouvé la réponse quand même eux-mêmes. Hein. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, Ésaïe a trouvé ses réponses, il en parle dans son livre, et Jérémie aussi, il dit voilà, je suis toujours avec toi. Il dit toujours, je suis toujours avec toi, un petit peu comme dans le psaume 73, je suis toujours avec toi, même si je souffre, je suis toujours avec toi et je sais que tu ne vas jamais me lâcher. Alors, je suis conscient que, je m'excuse auprès de vous de vous avoir exposé un truc qui n'est pas tout à fait joyeux, parce qu'en fait, ça légitimise un peu la souffrance qui nous tombe dessus, quelquefois de manière fortuite. Ça ne la légitimise pas, je veux dire, mais ça explique un peu. Je ne veux pas dire qu'on doit rechercher la souffrance, mais quand la souffrance est là, nous savons qu'il y a certainement un but que Dieu cherche, parce que Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Je termine donc maintenant par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, je te remercie des souffrances que tu as déjà permises dans ma vie. Je ne souhaite pas en avoir plus. Je préférais être dans le bonheur complet jusqu'à ma mort, mais je sais, Seigneur, que tu as, toi, une façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, comme tu l'as dit à Job, comme tu l'as exprimé à d'autres. Et même si nous avons la pression, Seigneur, trop la pression, comme nous le disons parfois souvent, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es celui qui a payé de sa vie et qui a subi la plus grosse pression que quiconque ait pu subir, pour m'empêcher, pour me sauver. Seigneur, si tu l'as fait, c'est probablement parce que le bonheur, il est merveilleux et il peut être goûté maintenant. Au nom de ton Fils, Amen.